Alors, donc, pour reprendre là où nous en étions, donc on a vu le sens du toucher, avec d'abord ce sens de toucher qui est associé à au besoin de sécurité dans l'existence, le fait que j'existe corporellement, on ne peut pas être privé sur la totalité du corps du sens du toucher, le toucher comme certitude d'être aimé, hein, à la fois avec cet attachement et ce détachement, hein, cet attachement de l'enfant, mais en fait, pour que l'enfant suite incorpore en lui-même qu'il est aimé et qu'il se détache. Et je trouve que c'est le sens aussi de l'étape, de la progressivité. Et en méditant là-dessus, j'ai trouvé dans le Nouveau Testament quelque chose qui pouvait aussi, d'une certaine manière, faire écho à cette réalité corporelle. C'est le dialogue de Marie-Madeleine avec Jésus après la résurrection. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Ne me touche pas. Marie, ne me touche pas. Donc c'était une grande affective, comme nous le savons. Ne me touche pas. C'est intéressant, ça. Ne me touche pas, c'est il faut que j'aille vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. C'est-à-dire qu'il l'amène progressivement d'un toucher affectif à la réalité de la foi. C'est-à-dire qu'il l'amène, et je trouve ça très beau de voir que ça fait écho tant la réalité humaine de l'enfant qui se détache progressivement pour aller vers l'autonomie, que dans la parole de Dieu, où Jésus lui-même, face à Marie-Madeleine, va éduquer son affectivité, dit « ne me touche pas », alors qu'elle l'avait reconnu, etc., Rabboudi. Bon, on voyait toute son affectivité, tout son amour pour Jésus, tout ce qu'il avait fait pour elle, et il l'emmène plus loin. Je trouve ça, c'est très, très, très beau. Vous trouvez ça en Jean 20, hein, chapitre 20. Et puis là, on va voir maintenant le toucher et l'identité sexuelle. Hein, l'identité sexuelle, ce n'est pas une simple, d'abord, stimulation érotique. C'est la certitude et l'acceptation heureuse de son propre sexe. Très tôt, l'enfant reçoit d'abord de sa mère le sentiment d'être accepté dans son sexe, d'être aimé comme garçon ou comme fille, à travers les langes, la façon d'être langé, d'être baigné, d'être caressé. Hein, ce toucher sécurise l'enfant dans sa propre sexualité, c'est-à-dire le conforte aussi dans son être d'homme et de femme. Et on voit bien que l'inverse est aussi vrai, hein, que si le toucher est source de souffrance, la maltraitance, l'abus sexuel, eh bien la peau devient source de souffrance et engendre comme une non-acceptation de soi, alors au niveau de la nourriture ou de l'hygiène, mais aussi au niveau de sa propre sexualité. Hein, une sorte de malaise d'être garçon, malaise d'être fille, hein, et qui peut être une des explications de l'homosexualité. Hein, donc c'est intéressant de voir au fond que... Et là, le papa aussi a un rôle très important à jouer dans cette confirmation de l'identité sexuelle. Parce qu'au fond, on se dit, oui, mais le papa, bon, ben, c'est plutôt le domaine des garçons, là, maman, les filles, ça. Pas du tout. Pas du tout, je veux dire, c'est... le premier regard d'homme que reçoit une femme, c'est le regard de son père. Et c'est dans le regard de son père qu'elle se découvre femme. Et c'est dans le regard de son père qu'elle découvre sa beauté. Et donc, les papas, vous avez tout à fait un rôle à jouer dans l'éducation et dans la confirmation de l'identité sexuelle de vos filles, tout simplement en leur disant qu'elles sont belles. Et dans ce regard de confirmer, au fond, là, là aussi, on parlait du toucher, de la certitude. Eh bien oui, je trouve qu'il y a une certitude qui est donnée par rapport à son propre corps, à ma propre identité sexuelle, ça fait partie de moi, c'est cette réalité que je n'ai pas choisie, mais que j'accueille. On parlait, donc vous avez médité sur l'accueil de la réalité dans le temps en couple. Ben oui, c'est vrai qu'il y a cet accueil de la réalité qui va faire que, au fond, de la part du père, parce que je crois que c'est le père qui confirme beaucoup dans cette identité sexuelle, on avait fait un autre moment, je ne me rappelle plus, quelque chose sur la place du père dans la famille, mais il y aurait beaucoup de choses à méditer là-dessus. Mais c'est vrai que c'est lui qui encourage, au fond, à la fois le garçon dans sa masculinité et la fille dans sa féminité. Hein, c'est, parce que la parole du papa ou la parole de la maman, ce n'est pas du tout pareil. Hein, c'est pas du tout pareil. Alors voilà, donc c'est se toucher comme le lieu de la sécurité. Maintenant, on va voir les conséquences psychologiques des manques. Premièrement, donc, l'insatisfaction, il y aura deux formes de manque. L'insatisfaction ou la sursatisfaction du besoin d'être touché. Il y a deux styles de manque, disons, par excès ou par défaut. C'est-à-dire, c'est deux styles de fragilité. Hein. Donc, premièrement, l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est à ne pas être assez, avoir été assez caressé, assez câliné, assez, voilà, par défaut. Donc, ça peut engendrer une sorte de peur de vivre, puisqu'on a vu qu'au fond, le toucher donnait à l'enfant des raisons de vivre et de s'alimenter, avec des craintes par rapport à la nourriture, ce qu'on appelle l'anorexie, des craintes par rapport à la fatigue, ce qu'on appelle la psychasthénie, et des craintes par rapport à la maladie, ce qu'on appelle l'hypochondrie. Là, donc on est là dans les conséquences, insatisfaction, peur de vivre, les peurs de vivre. Et donc c'est vrai que ça intéresse parce que c'est tellement profond le toucher que, et ça touche comme ben, en fait c'est en creux tout ce qu'on a vu en plein d'une certaine manière. Ça touche à la vie, ça touche à la confiance et c'est vrai que derrière ça, quelqu'un qui n'a pas suffisamment été sollicité dans son toucher, ça peut engendrer, là encore, ne pas légiférer, ne pas mettre des choses trop raides, hein, mais ça peut engendrer une tristesse de base, une tristesse de fond, une forme de dévaluation de soi-même, voire une dureté envers soi-même. Et parfois, cette dureté, c'est là où il faut être attentif au niveau de la vie spirituelle. Cette dureté est comme sublimée, peut être sublimée en se projetant dans un idéal. Dans un idéal qu'on pourrait appeler, par exemple, le dolorisme. Vous savez que le dolorisme, qui finalement a été condamné par l'Église, ben c'est cette spiritualité victimale, je veux dire, du coup, des personnes qui se trouvent très à l'aise, mais au fond, pour ça, il faut être très attentif dans la vie religieuse, parce que et la vie sacerdotale, au fond, à la question humaine. Il faut être très attentif parce que on peut avoir des personnes qui nous paraissent très pieuses, très priantes, mais qui au fond, la foi n'est que la sublimation de leur fragilité. Et dans le ministère ou dans la vie communautaire, là, ça se voit en plein jour. Et d'où l'importance d'une stabilité humaine et d'un équilibre humain que ne remplace aucune piété. Ce qui est humain, ce qui est divin. C'est des ordres qui sont séparés, qui ont des connexions, on l'a vu, mais c'est des ordres qui ont... Et je crois que de ce côté-là, cette manière de sublimer aussi là, les blessures nous entraîne aussi dans... Ne résout pas la vraie question. La vraie question, c'est que s'il y a une question humaine à régler... Ben voilà, je vais régler de façon humaine. Alors, on va voir, il y a plusieurs techniques. On va parler des piscines d'eau chaude, on va parler... Moi, je crois beaucoup, par exemple, au bain aussi. La question du... Des choses toutes simples, oui, c'est ce qui font que, à la fois, on remonte avec nos propres émotions, et à la question du massage, la question de... où on se réapproprie notre corps, alors qu'on est dans une société tellement cérébrale. Ensuite, l'insatisfaction du besoin entraîne une deuxième difficulté, c'est une méfiance envers l'amour. Puisqu'on a dit, hein, donc en creux, toujours, vous faites le lien entre les deux, hein, si le toucher donne une sécurité dans l'amour, l'absence de toucher, lui, donne une méfiance dans l'amour. Et qu'est-ce que ça entraîne, cette méfiance dans l'amour? Ça peut entraîner un sentiment latent de culpabilité, avec comme sentiment de fond la colère, qui peut aller jusqu'à la haine de soi, et un perpétuel conflit avec les autres, désir de vengeance contre soi, les autres, la société, incapacité de faire confiance à se laisser aimer et aider. Une forme d'hostilité de fond. C'est vrai, quelqu'un qui n'a pas été sécurisé dans l'amour, c'est quelqu'un de violent. C'est quelqu'un qui, alors, s'en est plus ou moins sorti parce qu'il a une bonne intelligence, et donc a transféré tout au niveau cérébral. S'il n'a pas eu cette sollicitation intellectuelle, moi, ce que j'ai vu dans le cas des prisonniers, par exemple, des personnes avec une grande fragilité humaine, une vie dans la marginalité, eh bien, cette violence, quelque part, elle est à fleur de peau et elle est visible par toute la société. Et donc, c'est intéressant de voir que, au fond, cette incapacité, cette méfiance de l'amour parce que j'ai pas été suffisamment sécurisé dans l'amour, avec cet attachement et ce détachement, ce sera donc ce sentiment latent de culpabilité, j'ai dit, donc avec un fond de colère. Et c'est intéressant, saint Thomas d'Aquin, qui a travaillé sur les émotions aussi, hein, dans son étude sur la colère, montre que la personne portée à la colère cherche à compenser une profonde insécurité en affichant une haute considération de soi-même. Ce n'est pas tant sa personne qu'elle aime que son personnage forgé pour cacher son désarroi. Vous voyez des personnes, par exemple, je ne parle pas de la colère, voilà, on est exaspéré, de la colère parce qu'on est... Voilà, je parle de quelque chose de fond. Dans la vie professionnelle, par exemple, on voit des personnes comme ça, elles sont à la fois très méprisantes, très hautaines, voire colériques, mais au fond, c'est une profonde insécurité. C'est quelque part de remettre, et ce que c'est intéressant de voir cette analyse de saint Thomas d'Aquin, quand même, XIIe siècle, de dire au fond, il n'aime pas tant sa personne que son personnage. Et il continue en disant, ce sentiment de culpabilité, hein, et plus la personne se sent supérieure, plus elle est atteinte par un refus des autres dont elle a peur et se méfie. Au fond, ça veut dire que je me suis construit un idéal de moi tellement haut et une personne qui viendrait me contredire, c'est toujours intéressant quand on dit non aux gens. Comment ça se passe? Et une personne qui viendrait me contredire, alors on voit que ça explose. On voit que, alors soit on reste paisible, etc., on fait ce qu'on peut, soit, ben, mais derrière ça, c'est une immense fragilité, un immense désarroi. C'est des personnes qui sont... Alors la difficulté, c'est quand c'est des personnes qui cérébralement percutent bien, mais affectivement sont complètement immatures et qui sont en même temps à des postes clés, je vous laisse voir un peu la difficulté. C'est parce qu'on est une unité, précisément. Et ces postes clés que les personnes occupent parce qu'il y a les diplômes qui vont bien... Eh bien, je trouve que si ce n'est pas suivi par une humanité qui est à peu près équilibrée, on ne va pas à la perfection, sinon c'est impossible, parce que justement, il y a des gens qui transposent soit sublime au plan spirituel, soit sublime au plan intellectuel. Et du coup, quelque part, au plan intellectuel, se donne comme une raison de vivre, une sécurité. C'est « je pars de ma propre intelligence pour construire mon système, et donc je suis sûr dans mon... Je suis sûr de, c'est mon intelligence qui me donne ma sécurité. Mais affectivement, je suis complètement, mais au niveau d'un enfant de 2 ans, complètement dans fragile, complètement dans le désarroi, dans la pauvreté, dans la vulnérabilité. Et des personnes qui ne montreront jamais leur vulnérabilité, parce que justement, ils percutent bien au niveau intellectuel, ils sont là bien, mais... Et ça, je crois que, et on en connaît tous, hein, on en connaît tous, d'où l'importance que, j'allais dire, que quelque part, ceux qui sont équilibrés aient une juste ambition et aboutissent à des postes de haute responsabilité, justement, si on estime soi-même avoir reçu beaucoup et avoir... Il y a une légitime ambition au plan professionnel. Parce que quand on voit certains qui ont des responsabilités professionnelles, voire politiques, on se dit... C'est quand même très compliqué, quoi. Et des personnes qui ont un pouvoir considérable et qui affectivement sont, je veux dire, un gamin de 5 ans est bien élevé, sécurisé comme il faut, etc., et plus équilibré qu'eux. Et alors du coup, je crois que de ce côté-là, il y a quelque chose à faire. Et bon, ça c'est, on pourrait parler du... Mais bon, en tout cas, c'est intéressant. Plus la personne se sent supérieure, plus elle est atteinte par le refus des autres. C'est intéressant, ça. Alors, ça peut entraîner aussi une méfiance envers l'amour, qui implique comme une tendance à la captation, à la recherche de l'autre comme substitut de sécurité. On voit bien dans les couples, par exemple. Moi, je vois bien dans les couples, quand on fond l'amour n'est pas la fusion. La communion n'est pas la fusion. Et donc, du coup, quand on voit l'autre qui est attaché à soi, mais de façon, je ne peux pas dire compulsive, mais comme une béquille, comme un substitut de la sécurité. Hein. La, Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut quelque part un attachement pour un détachement. Il faut, l'amour demande de la distance, forcément. Le défi du couple, c'est être un tout en restant deux. Et donc, du coup, c'est pas former un dans le sens de la fusion des personnalités. Donc, on voit bien que dans l'affectivité, c'est important de voir que cette captation de l'autre est comme une forme justement de sécurisation. Je mets la main sur l'autre. Ça peut être la manipulation, la domination. Ça peut s'exprimer de façon diverse, hein, en chacun de nous. Au fond, derrière ça, il y a une difficulté à laisser l'autre libre et à laisser l'autre profondément libre. Derrière ça, c'est une difficulté par rapport à la chasteté. La chasteté, on confond la chasteté et la continence. La chasteté, c'est avoir un juste rapport au corps de l'autre. Alors que la continence, c'est renoncer à la jouissance sexuelle. Mais la chasteté, tant pour le couple que pour le célibataire, que pour le religieux, c'est j'ai un juste rapport, j'ai une juste distance par rapport au corps de l'autre. Ce qui va faire que l'autre va pouvoir être autre que moi. Vous vous rappelez, hein, le toucher comme le sens de l'altérité. Et donc, on voit bien des personnes qui sont insécurisées au niveau affectif, quelque part au niveau de la chasteté, voilà, voudront manipuler, voudront mettre la main sur l'autre, voudront faire que l'autre soit leur image et ressemblance, voudront, voilà, c'est toutes les formes d'emprise aussi, hein, donc c'est pas seulement au plan sexuel, ça peut être au plan aussi affectif. Ça va jusque là, c'est bon, parce qu'il faut un peu dropper, parce que sinon... Ensuite, la propension, derrière ça, il peut y avoir une propension à la jalousie. La jalousie qui est différente de l'envie. L'envie, c'est la tristesse face au bien dont l'autre jouit, alors que la jalousie, c'est la crainte de perdre l'affection ou l'amour dû de la part de l'aimant. Donc la jalousie, c'est la crainte de perdre... L'envie, c'est la tristesse face au bien dont l'autre jouit. L'autre a quelque chose et je l'envie. J'ai une forme de... Voilà, je voudrais avoir le bien qu'a l'autre. L'autre a une capacité, je ne sais pas quoi. L'autre a une bonne mémoire, j'aimerais avoir ce qu'il a. L'autre a est bon en maths et j'aimerais être ce qu'il a. C'est l'envie. La jalousie, c'est autre chose. La jalousie, c'est, au fond, cette insécurité dans l'amour. J'ai peur de perdre. Hein, j'ai peur de perdre la crainte. Derrière la jalousie, il y a une crainte. Il n'y a pas seulement une peur, il y a une crainte. Une crainte de perdre l'affection ou l'amour dû de la part de la personne aimée. Hein? Voilà. Donc on a vu, premièrement, les insatisfactions. Donc on redécline ce qu'on a vu. Hein? Sécurité dans l'existence, sécurité dans l'amour, identité sexuelle. Donc il y a des insatisfactions, ça implique une peur de vivre, méfiance envers l'amour, mais aussi une forme de refus de sa propre sexualité ou refus de la sexualité de l'autre. C'est refuser son corps en tant que lieu de la sexualité, c'est la peur de son corps ou du corps de l'autre. Hein, la personnalité peu chaleureuse, pudeur excessive, peur d'être touchée. Hein, on parle de la sexualité qui est permise à l'intérieur du mariage, mais ce n'est pas pour cela qu'elle est rendue bonne. C'est intéressant, ça. C'est pas parce qu'on dit, bon, oui, la sexualité dans le mariage, mais est-ce qu'on a un regard positif sur la sexualité? Et encore une fois, l'Église a beaucoup de passifs de ce côté-là. On en a déjà parlé. On voit quelque chose de sale. Et je crois qu'il nous faut guérir, et ça, c'est directement lié au péché originel. Pour le coup, c'est de voir, hein, ils furent nus et ils en sentirent de la honte, alors qu'ils étaient nus, Adam et Ève, face à Dieu, dans l'amour et la confiance. Mais dès qu'ils ont perdu la confiance et la sécurité d'être aimés, eh bien, il y a eu une perte. C'est ce que Jean-Paul II a appelé comme l'effondrement de la vocation sponsale du corps. C'est-à-dire que le corps, quelque part, s'est effondré parce qu'il n'était plus dans l'amour de Dieu. Et donc, du coup, les corps s'est retrouvé nus, hein, et ils se cousurent des feuilles de vigne, etc. Bon, ça, c'est quelque part, cette difficulté avec le corps... Que l'on peut avoir et voilà, je trouve ça assez intéressant, le parallèle justement par rapport au péché originel. Et Ça va jusque-là, genre ça, c'est bon, ça, dans ton monde, il va un petit peu comme ça. B, grand B, B, alors B, sursatisfaction du besoin. C'est assez facile, c'est soit par excès, soit par défaut, c'est toujours parfait. Donc, sursatisfaction du besoin, elle est le transfert d'une anxiété maternelle ou paternelle envers l'enfant, considérée à tort ou à raison comme fragile. Alors, à tort ou à raison comme fragile, alors, c'est vrai. Hein, vous voyez, on en est à B, à sursatisfaction. Donc, alors, les conséquences, donc, l'insatisfaction, peur de vivre, méfiance envers l'amour, refus de la sexualité, et sursatisfaction, c'est-à-dire, on a trop donné. Bon, sursatisfaction, c'est-à-dire, on a trop été dans le contact physique, on n'a pas eu cette autonomie progressive. Hein. Alors, ça se traduit très clairement par ce qu'on appelle la surprotection. La surprotection d'un enfant, c'est intéressant, la surprotection, c'est le transfert d'une anxiété. On a peur que quelque chose arrive à l'enfant. Vous avez chacun peur, c'est évident. Personne ne voudrait qu'arrive quelque chose ni vous, ni personne d'autre. Mais vous voyez, c'est quelque chose de presque maladif, compulsif. Un enfant qu'on considère comme fragile, à tort ou à raison, parce que son handicap, parce que parce qu'il est porteur d'une maladie, il a une maladie, parce que aussi il y a eu la perte récente d'un enfant. Un enfant qui naît après une fausse couche ou un enfant qui naît après le décès d'un enfant, il faut être assez attentif pour justement ne pas... Voilà, surtout qu'il lui arrive rien, c'est de transférer cette anxiété sur l'autre. Un enfant aussi qui est né, moi je trouve ça aussi assez intéressant, hein, mais qui est né par les méthodes de procréation médicalement assistée. Pourquoi ça engendre une difficulté? Hein, qu'on appelle la FIVette, hein, c'est la procréation in vitro, hein, la fécondation in vitro. C'est que tout simplement, pour la femme en tout cas, c'est tellement un parcours du combattant de pouvoir enfanter, être enceinte, etc. Et puis un protocole, alors là, il faut oublier tout ce qui est glamour, tout ce qui est romantique, c'est à telle heure, faites telle chose, à telle heure, vous faites tac, 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 c'est le protocole, c'est zéro romantisme. Mais du coup, l'enfant qui vient, si on y prête attention, on a tellement quelque part souffert pour lui. On l'a tellement désiré, mais on a tellement franchi d'étapes que voilà, surtout qu'il lui arrive rien. Et donc, il peut y avoir une forme d'anxiété par rapport à cet enfant-là, qui n'est pas venu naturellement. Mais donc, du coup, voilà, je crois que c'est aussi être attentif par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il arrive que. Encore une fois, hein, faut pas rigidifier les choses. Mais c'est simplement être attentif à ça. Hein. Ça engendrera tout. Donc, c'est ça. Donc, la surprotection, ça peut engendrer à la fois, il y a plusieurs choses que ça engendre, l'impatience, la recherche de l'immédiateté, la dépendance affective, avec l'anxiété d'être abandonné, une dépendance à la sensualité, avec ce qui est source de jouissance immédiate, recherche du plaisir immédiat, recherche du confort. Quelque part, la personne se reconforte. Elle n'a pas eu ce toucher paternel ou maternel qui l'a sécurisé dans la petite enfance. Eh bien, adulte, on voit des personnes qui, toujours dans le contact sensuel, voilà, veulent se réconforter dans ce plaisir immédiat, quelque part se resécuriser dans leur affection. C'est une recherche d'affection. Hein. Des personnes, par exemple... comme une forme de, par exemple, de dépendance à la masturbation. Hein, vous voyez, du coup, il y a quelque chose qui n'est quand même pas en place. Alors qu'un adolescent, on sent que c'est compliqué, etc. Mais à un moment donné, chez un homme, et en plus. Mais vous voyez, on dit chez un homme marié. Non. Le fait du mariage, ça n'arrange pas ces questions-là. Je me rappelle d'une jeune femme qui dit 3 heures du matin, je me lève, je ne vois pas mon mari dans le lit. Mais où est-ce qu'il est passé? On s'est couché ensemble. Ben, il est devant l'ordinateur, en train de regarder ce que vous pensez, de faire ce que vous pensez. Tout simplement parce qu'il n'a pas lui-même quelque part, c'est un désir c'est le signe d'une souffrance, toute la question de la pornographie, c'est une souffrance. C'est beaucoup plus d'une souffrance que d'une perversion, j'allais dire. C'est la souffrance qui essaie d'être comblée, quelque part, parce qu'on essaie de combler une blessure. Et puis ça comble rien, parce que on revient. C'est ça, on a un plaisir, on en veut, mais il n'y a jamais de repos, il n'y a jamais de sécurisation. Il n'y a pas de repos. Et ça, je trouve que c'est intéressant de dire justement ça, et par rapport aux adolescents, et même aux jeunes, justement, cet accès, on a en nous des sources de plaisir qui sont très puissantes, entre toutes les sources de plaisir sexuelles, mais de redonner une finalité, et de redonner à la fois la beauté de ça, et puis voilà, c'est mais de pas, voilà, pas non plus de faire un interdit, je sais pas comment vous dire, c'est dans certains pensionnats on attachait les mains des garçons au lit, ça, à mon avis, ça les a pas forcément aidés, mais bon. Parce que bon, c'est pas parce que c'est une méthode un peu puritaine, ça tient, ça, je n'ai pas pensé de parler. Vous avez vu un film, Le Festin de Babette? Ah, excellent. Ça, il faudrait le projeter là. Parce que Le Festin de Babette, c'est qu'il rentre dans une culture puritaine. Je pense que c'était en Hollande, de ce point-là, hyper puritaine, où on ne s'autorisait, c'est le 17e, 18e, où on ne s'autorisait aucune jouissance du corps, et elle est chargée de préparer un festin. C'est une Française qui arrive là. Et du coup, elle fait venir les huîtres, vas-y que je te fais venir le Bordeaux, vas-y que je te fais venir les vaches de je sais pas où, etc. Venir toute la nourriture, elle prépare un festin. Et on voit pendant ce festin-là, progressivement, l'humanité des personnes commence à s'éveiller, et ce puritanisme qui était tellement présent et prégnant, hein, dans cette culture-là, voilà, et c'est très intéressant, parce que on voit l'éveil des sens. Il y a un film à voir, c'est ça, c'est l'éveil des sens avec Le Festin de Babette. Hein. Donc, mais vous voyez, je crois que oui, oui.
Par rapport à la sexualité. Oui.
Puritaine.
Et en même temps très très permissive.
Permissive, oui.
Le dernier bouquin de Russell Banks, c'est Lointain souvenir de la peau. Et il évoque le parcours d'un adolescent, justement, et ça met bien le rapport entre la violence, la délinquance sexuelle,
oui,
la perception, et le chemin jusqu'à la forme de rédemption.
Ah ouais, ça, c'est, merci en tout cas de donner ça, mais c'est. Mais derrière ça, vous voyez, il y a une forme de compensation. Il y a tous des compensations. Je voulais que je vous dise. Voilà, maintenant, on va voir les remèdes, ça c'est la question. Hein. Ensuite, donc, ça c'est la surprotection. Donc, engendre impatience, immédiateté, tristesse, dépendance affective avec l'anxiété d'être abandonné, sensualité avec une dépendance à ce qui est source de jouissance, avec la recherche immédiate du plaisir. Et puis, donc, surprotection, il y a deuxième source de sursatisfaction par excès. Évidemment et malheureusement, l'abus sexuel. L'abus sexuel, que ce soit par le viol, l'inceste, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, le harcèlement sexuel, engendre une dévalorisation du corps, mais considérable. Hein, d'où la grande humiliation de l'Église. Hein, il y a quelques années, avec toute la question de la pédophilie, l'Église a été profondément humiliée. Et le courage d'un Benoît XVI, qui vraiment comme un Hercule avec les écuries d'Augias, hein, a enlevé le purin de l'Église. Je veux dire, il a dit, s'il faut faire des enquêtes, on fait des enquêtes, que ce soit en Irlande ou ailleurs, on ne met pas sur le couvercle. Et c'est lui déjà, dès Jean-Paul II avait demandé que toutes les questions de mœurs remontent directement à Rome et ne soient pas traitées en diocèse. Mais parce que ça, c'est tolérance zéro. Hein, ça, c'est. Mais il a eu un courage énorme. Et donc du coup, justement, de se dire, on voit en même temps tous les dégâts que ça a. Incroyable, parce que vous imaginez ensuite l'image de Dieu, l'image de c'est bon, c'est juste, ça donne des frissons. Le remède, Voilà, le remède. Donc, on a vu deux formes d'excès. Et ce sera le même schéma pour tous les sens. Excès et défaut et remède. Un remède. Remède, alors, je pense que, et ça a été un petit peu cité dans les échanges qu'on a eus tout à l'heure, c'est le remède par rapport à la, au plan humain. Il ne faut pas, mépriser ou sous-évaluer les questions humaines de rapport au corps. On a parlé du massage, on a parlé des bains, on a parlé de thérapie dans l'eau chaude, on a parlé de... qui rappelle quelque part le sein maternel aussi, hein, qui rappelle... on a parlé de contact avec les animaux, on a pas... La question humaine a sa propre logique humaine aussi. Et je crois que de ce côté-là, maintenant, c'est pas pour désespérer les uns et les autres, mais les blessures liées au toucher sont tellement douloureuses qu'elles touchent tellement l'être, vous voyez, dans son tréfonds, beaucoup plus que pour l'ouïe ou pour la vue. C'est la sécurité même de l'être, de l'existence de la personne, de la sécurité de l'amour. Je veux dire, c'est très fort. Hein. Donc, peut-être, oui, ça peut aider. Oui, peut-être cet éveil des sens, surtout quand on a été éduqué dans une forme d'éducation assez rigide, un peu psychorigide, vous voyez, bien catho et puis psychorigide. Parce qu'en question psychorigide, chez les cathos, on a de quoi servir un bon cocktail. Ça, c'est, on a de quoi faire. On a là sous le capot, donc là, c'est bon. Voilà, maintenant, les parents, on va parler des parents, et les parents, ils vous ont donné ce qu'ils avaient à donner, et ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Donc, à un moment donné, il faut casser la chaîne. Hein. Donc, le remède à la miséricorde. Les blessures qui viennent du toucher sont les plus douloureuses et les plus traumatisantes. Elles ébranlent les certitudes fondamentales de l'homme. Elles touchent l'envie de vivre, la dignité du corps, la certitude de l'existence, de l'amour et de la bonté. Elles sont sources de dérèglement psychologique, comme on l'a vu. La personne blessée dans son toucher quémande sa certitude, quémande sa tendresse, une sécurité dans son être propre. Quelle est l'image qu'elle se fait de Dieu et de son amour, hein, et la mise en cause même de l'existence de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité. Ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Quelqu'un qui a été blessé dans sa propre... je pense au cas de maltraitance par exemple, hein, avoir une vie de foi après, je ne dis pas que c'est impossible, parce que la foi c'est une grâce. Mais c'est une grâce qui s'enracine dans la nature. C'est possible, mais c'est quand même beaucoup plus méritant et plus compliqué que quand on a été élevé dans l'amour, hein, dans une certaine sécurité. Bon, on n'a pas des parents parfaits, mais bon, voilà, on a une certaine contention, une certaine. Voilà, on a une. Un minimum syndical, j'allais dire, mais ceux qui ne l'ont pas eu. Hein. Et au fond, c'est Jean-Paul II, dans son très beau texte sur « Dives in misericordia hein, », Dieu riche en miséricorde, qui dit la chose suivante. La croix, c'est au numéro 8, vous savez que les encycliques sont structurées par numéro, bon, voilà, faut regarder. « Dives in misericordia », numéro 8. La croix est le moyen le plus profond pour la divinité de se pencher sur l'homme et sur ce que l'homme, surtout dans les moments difficiles et douloureux, appelle son malheureux destin. La croix est un toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre et de l'homme, et l'accomplissement jusqu'au bout du programme messianique que le Christ avait formulé dans la synagogue de Nazareth, puis répété devant les messagers de Jean-Baptiste. La croix est un toucher. Et j'aimerais terminer notre enseignement sur cette question-là. La croix, c'est la miséricorde. La miséricorde, et donc, comme remède, un des remèdes, en tout cas, c'est cette formation à la miséricorde. De laisser, tout en ayant cette dimension humaine et de recourir à tout ce qui est humain, mais on voit bien, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour que ça change. Parce qu'on a des choses qui nous viennent de parfois, vous disiez tout à l'heure, hein, de génération. Il y a une transfert de génération en génération qui, voilà, on rompt pas ça si facilement. Mais la croix, c'est l'expression de la miséricorde, c'est l'expression de la fidélité. Et pour guérir, il me semble qu'il y a trois formes de fidélité. Premièrement, la fidélité à soi-même. Fidélité à soi-même, c'est former à la miséricorde, c'est découvrir, faire découvrir à quelqu'un la valeur de son être propre et lui en apprendre la fidélité. Jean-Paul de Dôme, comme premier témoignage de la fidélité à soi-même, l'exemple du père du fils prodigue. Le père accueille le fils en raison de sa fidélité à son être de père, fidèle à l'amour dont il comblait le fils depuis toujours. Dieu est fidèle à lui-même et en même temps fidèle au plus grand des biens qui caractérise le fils prodigue, sa dignité de fils. Fidélité à ce que nous sommes, à notre propre dignité. Parfois, il faut aussi un acte de foi par rapport à ça. Il faut un acte de confiance. C'est très intéressant de... Dans la parabole du fils prodigue, vous regarderez le texte, hein, en Luc 15, le fils qui retourne vers le père, et à un moment donné, il se prépare un discours. Vous savez, souvent, quand on va demander une augmentation, on se prépare un discours, on se dit, voilà, Et donc, il s'est préparé, on va faire une déclaration d'amour, on se prépare un discours à soi-même. Et donc, le fils, évidemment, quand même, qui n'est pas complètement fier de son comportement, c'était propre. Moi, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et il dit à la fin, il se dit à lui-même, traite-moi comme l'un de tes journaliers. Et quand il arrive devant le père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être accueilli comme ton fils. Et là, le père coupe et ne lui laisse pas dire « Traite-moi comme l'un de tes journaliers. » La fidélité à soi-même, à l'image de Dieu en soi, à la dignité que Dieu lui-même a déposée dans notre cœur. Être fidèle à soi-même et à sa propre dignité au-delà des blessures de la vie. Devenir possesseur de soi pour aimer en soi et rester...